Bon réveil avec Europe 1. L'actualité de ce 11 novembre, Sophie Tussaud, Bernard Poirette.
Sophie, bonjour.
Bonjour Bernard, bonjour à tous.
À la une de ce journal.
Il y a un siècle exactement, les cloches sonnaient et annonçaient la fin de la guerre. 70 chefs d'État et de gouvernement seront réunis tout à l'heure sous l'Arc de Triomphe à Paris pour célébrer l'événement. Le CDI surprise d'une jeune caissière qui avait interpellé cette semaine Emmanuel Macron sur sa situation professionnelle. Et puis attention aux champignons ramassés en forêt, les intoxications se multiplient ces derniers jours.
Europe 1. La fin de la Grande Guerre, c'était il y a 100 ans, jour pour jour.
Toute la journée, un vibrant hommage sera rendu aux poilus, aux combattants des tranchées aujourd'hui tous disparus. L'un d'entre eux, Ferdinand Gilson, évoquait en 2002 sur Europe 1 le moment où il apprit que la guerre était finie. Il avait alors 104 ans.
Le 11 novembre 1918, aux environs de 11h, nous revenions de manœuvre. J'étais à l'école d'application militaire de Fontainebleau. J'entends du tintamarre des étudiants qui se tenaient par les épaules. Un copain arrive dans la chambre et dit « La guerre est finie, c'est tout. » Alors là, je vous explique pas le reste.
Quel sentiment vous avez eu à ce moment-là?
Ce que pourrait penser un condamné à mort si on lui disait qu'il était gracié.
L'ancien poilu Ferdinand Gilson avec Marc Messier sur Europe 1. Les cérémonies vont se succéder aujourd'hui. Point d'orgue des commémorations ce matin sous l'Arc de Triomphe où 70 chefs d'État et de gouvernement seront réunis. Émission spéciale à suivre dès 10h45 sur Europe 1 autour de Wendy Bouchard. Les précisions sur cette journée de souvenir avec Adrien Beck.
Vainqueur comme vaincu de 1918, réunis pour l'histoire face à l'Arc de Triomphe, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Donald Trump, Vladimir Poutine, 70 chefs d'État pour une cérémonie sobre. Après la traditionnelle revue des troupes, la sonnerie aux morts et la marseillaise, des lycéens liront des lettres de soldats de la Grande Guerre, américains, britanniques, allemands, avant un discours d'Emmanuel Macron sur le thème de la paix, car c'est bien la tonalité que l'Élysée veut donner à ses commémorations du centenaire de l'armistice de 1918, célébrer la fin du carnage plutôt que la victoire et surtout regarder le présent et se projeter dans le futur. D'où ce forum pour la paix cet après-midi à la Villette à Paris. Devant ses homologues, Emmanuel Macron y défendra une vision du monde multilatérale. Ce sera sans Donald Trump, connu pour ses positions isolationnistes. Au même moment, le président des États-Unis visitera le cimetière américain de Suresnes dans les Hauts-de-Seine.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Parallèlement à ces commémorations, une manifestation anti-Trump est prévue à 14h, place de la République à Paris. Un rassemblement qui inquiète les autorités. Des Black Blocs pourraient s'infiltrer dans la foule et commettre une action violente.
Les commémorations sont l'occasion de se souvenir de l'ampleur de ce conflit. À l'issue de la Grande Guerre, les pertes humaines sont considérables. 20 millions de morts.
Une hécatombe pour toute une génération. 10 millions de militaires tués, autant de civils, parmi lesquels des femmes, dont seulement une dizaine sont aujourd'hui reconnues mortes pour la France. C'est le cas de Marcel Louvat, infirmière et native de Tours. À l'occasion du centenaire de l'armistice, la ville a décidé de lui rendre hommage. Jean-Gabriel Bourgeois.
Son nom a été gravé il y a quelques jours dans la pierre du monument aux morts à l'intérieur de l'hôtel de ville. Unique femme tourangelle morte pour la France en 1918. Fille de militaire, Marcel Louvat a 27 ans au début de la guerre. Elle prend part au conflit à l'hôpital et devient infirmière. Jacques Chevchenko est chargé du patrimoine à la mairie de Tours.
Mademoiselle Louvat s'est engagée dans la Croix-Rouge, le service de santé des blessés de guerre. Elle a rejoint l'hôpital du Val-de-Grâce. Elle était infirmière-major, c'est-à-dire chef.
Et c'est en soignant les soldats atteints de la grippe espagnole qu'elle contracte le virus. Elle décède le 13 octobre 1918, un mois avant l'armistice. À travers Marcel Louvat, ce sont toutes les femmes victimes de la Grande Guerre qui sont mises à l'honneur. Christophe Bouchet, le maire de Tours.
Derrière chaque homme mort au combat, derrière chaque homme qui était sur le front, il y avait des femmes. D'immenses douleurs, de mères qui perdaient plusieurs enfants, de filles qui perdaient leur papa. Donc je pense que c'était important de rendre hommage à toutes ces femmes qui ont eu un rôle relativement minimisé, de réhabiliter toutes celles qui étaient finalement non pas au combat, mais tellement utiles au combat.
Seulement une dizaine de femmes ont été reconnues mortes pour la France pendant la Première Guerre mondiale.
Jean-Gabriel Bourgeois. Joie à Tours pour Europe 1. En ce jour de commémoration du 11 novembre, un groupe de sympathisants de l'ultra-droite avait prévu de poignarder Emmanuel Macron. Les quatre suspects âgés de 22 à 62 ans ont été mis en examen hier soir pour association de malfaiteurs criminels terroristes et détention non autorisée d'armes en relation avec une entreprise terroriste. Deux d'entre eux ont été placés en détention provisoire. À l'étranger, les feux qui ravagent la Californie sont incontrôlables et le bilan s'alourdit. Il fait état ce matin d'au moins 23 morts. Plusieurs corps ont été découverts dans la ville de Paradise.
Restez avec nous dans un instant à suivre. Une jeune caissière qui était en CDD et qui avait interpellé Emmanuel Macron cette semaine pendant sa tournée mémoriale, vous l'avez entendu sur Europe 1, vu à la télévision aussi, eh bien elle l'avait interpellée sur sa situation professionnelle. Apparemment, ça a porté ses fruits.
6h05 sur Europe 1. Suite de l'actu avec Sophie Tussaud et Bernard Poirette.
Miracle, miracle dans le Pas-de-Calais, une jeune caissière a reçu un coup de pouce de Dieu ou de Jupiter, sait-on jamais.
Océane, 19 ans, enchaîne les CDD chez Carrefour. Cette semaine, lors de la visite d'Emmanuel Macron à Lens, elle l'interpelle sur sa situation professionnelle. Et en seulement quelques heures, elle décroche un CDI, une promotion surprenante à la veille de l'annonce de l'instauration d'un bonus-malus pour les entreprises qui abusent des contrats courts. Rémi Botsaron.
Tout commence dans un centre socio-culturel de Lens, vendredi matin. D'une voix timide, Océane expose sa situation à Emmanuel Macron.
Et je voulais vous demander si vous prévoyez des mesures nouvelles pour l'emploi des jeunes.
Alors, d'abord, on va suivre quand même le dossier avec la mission locale sur la situation dans laquelle vous êtes à Carrefour, parce que toute la réforme qu'on est en train de conduire, c'est aussi de favoriser l'emploi durable.
Et le dossier est visiblement très vite suivi, puisqu'à la sortie de cette réunion, Océane voit s'approcher le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin.
Il est venu prendre mon numéro de téléphone. Une demi-heure après, j'ai reçu un coup de téléphone de la DRH de Carrefour, France. Elle m'a dit que j'allais être convoquée dans le bureau de mon directeur.
Rendez-vous qui s'est donc tenu dès hier au magasin Carrefour de Liévin.
Il m'a demandé ce que ça m'apportait d'être chez Carrefour. Il m'a demandé si je voulais évoluer. Il m'a dit mes compétences, que j'étais un bon élément et qu'il voulait me proposer un CDI.
Et au total, ce sont même 4 des 5 employés en CDD du magasin qui ont soudainement eu droit à un CDI. Une situation qui laisse perplexe un représentant de la CGT chez Carrefour, contacté hier soir. Même s'il se réjouit pour Océane, ce syndicaliste appelle Emmanuel Macron à se soucier des centaines de salariés en situation précaire dans l'entreprise.
Rémi Bossaron.
En ce dimanche d'automne, pourquoi ne pas aller ramasser quelques champignons en forêt? Bonne idée, non?
Effectivement, Bernard, c'est la saison en ce moment. Prudence toutefois. Ces deux dernières semaines, l'agence de sécurité sanitaire de l'alimentation a relevé près de 250 cas d'intoxication dans tout le pays. Écoutez les conseils de Magali Labadie, chef du centre antipoison au CHU de Bordeaux.
Il ne faut ramasser que les champignons que l'on connaît parfaitement. Certains champignons très toxiques sont très ressemblants à des champignons comestibles. Et puis surtout, si on a le moindre doute, il faut impérativement le faire vérifier par un spécialiste qui peuvent être soit des pharmaciens, soit des associations ou sociétés de mycologie. Ensuite, il faut aussi ne pas mélanger les espèces. Les mettre dans des paniers, ne pas les mettre dans des sacs plastiques, parce que les sacs plastiques, ça favorise, si vous voulez, la décomposition du champignon et on peut avoir des intoxications qui sont liées non pas à une confusion avec des champignons vénéneux, mais avec des champignons qui ont pourri, si vous voulez. Et puis enfin, il ne faut pas ramasser les champignons dans des endroits où ils peuvent être contaminés, hein, c'est-à-dire sur le bord des routes, dans des endroits où des champs sont traités, voyez, par exemple, hein, parce que là aussi, à ce moment-là, vous avez un champignon qui est contaminé et qui peut rendre malade.
La chef du centre antipoison au CHU de Bordeaux, au micro Europe 1 de Pierre Herbulot. Et si vous avez un doute sur un champignon, ne le mélangez pas avec les autres. De la musique à présent, alors que l'album posthume de Johnny Hallyday cartonne plus d'un million de ventes, son fils lui a rendu hommage hier soir à l'occasion des Energy Music Awards. David Hallyday a interprété « Ma dernière lettre », un cri d'amour pour son père, comme il l'a confié à Diane Chinouda.
C'est ma dernière.
C'est la lettre que j'aurais adoré avoir, mes enfants aussi, parce qu'il aimait aussi ses petits-enfants, il adorait ses petits-enfants, donc c'était des mots qu'on imaginerait pouvoir vouloir offrir et donner aux gens qu'on a aimés, quoi. C'est une lettre d'amour en fait.
Puisqu'au matin il me faudra partir. Que vais-je laisser de mon nom ?
J'ai mis tout mon ressenti, tout ce que j'ai vécu, cette espèce de cheminement très très difficile, d'une violence inouïe, parce que quand on perd un proche, ceux qui le savent ce que ça fait. Cet album, il m'a permis de commencer mon deuil et il m'a permis aussi à commencer à me reconstruire un petit peu et à me protéger aussi, moi et ma famille. Pour moi, c'est un album thérapeutique, bien entendu.
C'est juste un dernier cri. Avant le paradis.
David Hallyday, répondait à Diane Chénouda pour Europe 1.
Merci beaucoup Sophie, revenez tout à l'heure à 7h pour votre prochain journal.
6h10, c'est le moment d'enfiler ses baskets et parler sport avec Axel May.
Voilà, du calme, les baskets, tout ça, on va voir ça. Axel May, bonjour.
Bonjour.
L'équipe de France de rugby a égalé hier soir un record qui ne prête pas vraiment à l'optimisme à moins d'un an de la Coupe du Monde.
Et en perdant hier soir contre l'Afrique du Sud, les Bleus ont égalé leur record, mais peut-on parler de record, de 5 défaites consécutives décrochées l'an dernier par le prédécesseur de Jacques Brunel. C'était déjà face à ce même adversaire sud-africain. Hier, longtemps devant les Springboks au score, les Français ont concédé une touche à 2 secondes de la fin, action qui donnera lieu à un essai dans le temps additionnel. Défaite donc des Bleus 26-29. Écoutez le constat que le sélectionneur fait de ce match perdu contre l'équipe sud-africaine.
On a lutté d'égal à égal, et même quelquefois on est arrivé, je dis bien, à la dominer. On a été entreprenant, notamment en première mi-temps, on s'est créé des situations, on a peut-être pu marquer un petit peu plus des points. En contrepartie, on a donné des points facilement. Il y a pas mal de scories qui ont fait que l'Afrique du Sud a toujours été là au score et a pu lutter jusqu'à la fin et obtenir la victoire.
Le sélectionneur de l'équipe de France de rugby, Jacques Brunel, avec Simon Rubin. Prochain test match pour les Bleus, samedi contre l'Argentine.
Les Bleus du rugby sont donc assez ternes et en football, Lyon retrouve des couleurs.
Après son nul frustrant contre Hoffenheim en Ligue des Champions, l'OL a battu hier soir en Ligue 1 Guingamp 4-2 grâce à son attaquant hollandais Memphis Depay. Fidèle à lui-même, le président lyonnais Jean-Michel Aulas a critiqué devant le micro européen d'Hervé Bride ce qui critique son équipe.
On fait toujours des exégèses ou des analyses qui sont, à mon avis, très, très réduites. Et Memphis a fait un très grand match, de passes décisives, de buts, si j'ai bien suivi le match. Donc il ne faut pas être trop dur avec mes joueurs. Et franchement, on a et de grands joueurs et beaucoup de grands joueurs.
Et les autres résultats de cette 13e journée de Ligue 1?
Eh bien, on retiendra que Montpellier a perdu son 2e match de la saison seulement. Défaite 1-0 à Angers. L'entraîneur héraultais Michel Derzakarian avec Loïc Folio.
Oui, oui, quand tu perds, c'est un coup d'arrêt, bien sûr. On est resté sur 11 matchs sans défaite et on capote ce soir.
Et Montpellier est ce matin 3e du championnat derrière Lille, mais devant Lyon et devant Saint-Etienne, vainqueur hier soir de Reims 2-0. Victoire aussi de Nice et d'Amiens. Aujourd'hui, un match retient l'attention plus que les autres. Monaco rencontrera le leader, le PSG, à 21h.
Par ailleurs, en Ligue 2, dans le derby du Nord, eh bien c'est Valenciennes qui l'a emporté contre Lens, finalement 4-2. Et puis un dernier mot pour dire qu'un Français est tout de même champion du monde de karaté.
À 21 ans, Steven Dacosta a été sacré hier soir en Espagne, une consécration mondiale qui promet alors qu'en 2020, le karaté sera pour la première fois sport olympique. Oui. En attendant, Steven Dacosta savoure.
Je suis champion du monde. Bah, je réalise pas. Franchement, il faudra que je sois froid, vraiment, à hôtel ou même dans la semaine. Mais ouais, c'est magnifique.
Voilà, et la Marseillaise que vous avez entendue derrière, c'est celle jouée pour l'équipe de France féminine de karaté qui a conservé son titre hier soir.
Merci beaucoup. C'était le premier journal des sports de la matinale d'Axel May qui revient dans une heure, peu ou prou. À tout à l'heure, Axel.
Bon week-end avec Europe 1. Il est 6h13.